Donc, tu as été formé à l'INSES.
Tout à fait.
À la mise en scène.
Tout à fait.
Tu viens d'Avignon.
Tout à fait.
Et tu as déjà fait pas mal de mise en scène. Et donc, tu vas présenter aux Poches, dans la semaine qui va venir, un spectacle qui a été récemment traduit d'un auteur américain.
Une auteure, oui.
Une auteure américaine.
Jennifer Halley.
Qui s'appelle Quartier 3, Destruction Totale.
Oui.
Alors, c'est un spectacle qui parle des frontières entre le réel et le virtuel. C'est un spectacle qui tourne autour d'un groupe de jeunes qui sont accros à des jeux vidéo. Et puis, on va basculer un peu dans le fantastique.
Alors, pour donner effectivement le pitch de la pièce, c'est un groupe d'adolescents dans un quartier résidentiel qui s'est pris de passion pour un jeu vidéo. Et au fur et à mesure que la pièce avance, ce qui se passe dans le jeu vidéo commence à se passer dans la réalité. La question centrale de la pièce n'est pas celle de l'addiction aux jeux vidéo ou pas, mais plutôt de voir comment tous ces personnages, il y en a beaucoup, donc on passe à chaque fois d'une maison à une autre, on visite un peu tout le quartier en fait, on voit les personnages à chaque fois sur une seule scène, comment ils sont tous enfermés dans une réalité au sein d'une famille ou entre voisins, et comment ils arrivent peu à aller voir celle de l'autre et comment ils s'enferment sur la leur, quoi. Le jeu vidéo, c'est un peu le décorum qui fait qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de ce que font ces jeunes, beaucoup d'inconnus. C'est un peu la symbolique d'un imaginaire peu contrôlé. Et voilà.
Et c'est une pièce qui pose aussi pas mal de questions sur le rapport au réel. Et quand on sort de l'idée qu'on a du réel aussi, ce qui peut arriver.
C'est ça, effectivement.
Parce qu'en fait, la réalité, elle est propre à chacun.
Voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est que entre parents et adolescents, par exemple, on voit bien qu'ils sont dans des réalités différentes et qu'aucun ne va céder sur sa vision de la réalité. Et plus que l'idée, le jeu vidéo représente une réalité méconnue, qu'on ne connaît pas, sur laquelle on fantasme, et que les parents ont du mal à affronter ou à s'intéresser ou à avoir la curiosité d'eux, et que les ados ont du mal à ouvrir aux autres aussi. Donc voilà, c'est plutôt une question de voir s'il y a une réalité normative dans laquelle il faudrait qu'on soit tous ensemble, ou si finalement la réalité n'est pas quelque chose de plus individuel, et de, si c'est le cas, comment est-ce qu'on la partage et comment est-ce qu'on s'en intéresse ou on la rend, enfin on a une curiosité pour celle de l'autre.
Pour une pièce comme ça qui est sur la frontière entre la réalité et peut-être l'imaginaire aussi, parce que ça peut être la démence, c'est une réalité aussi. Comment a-t-on travaillé là-dessus? Parce que nous, on va découvrir la pièce, on ne la connaît pas. Donc, comment l'auteur a travaillé sur ce...
Elle joue sur un imaginaire collectif qui est aujourd'hui le jeu vidéo. C'est quelque chose qui provoque, bon, on voit bien dans les journaux, dès qu'il y a un problème, un jeune qui fait n'importe quoi, on remet vite la faute sur le fait qu'il joue beaucoup aux jeux vidéo. Enfin, il y a quelque chose autour du jeu vidéo qui est méconnu, qui est donc un peu sulfureux, je dis pas que tout est parfait dans le jeu vidéo, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est la méconnaissance du jeu vidéo et de ce que c'est aujourd'hui fait que souvent dans les médias, on s'empare de ce, et dans les explications, on fait vite des raccourcis, on explique beaucoup de choses avec la dépendance aux jeux vidéo.
Mais symbolise un peu.
Voilà, mais c'est quelque chose que le cinéma a eu ça aussi. Enfin, je veux dire, quand avec Tueur Né, par exemple, ça avait fait tellement de bruit, le fait que des jeunes qui avaient vu Tueur Né s'étaient peut-être inspirés d'eux. Enfin, je veux dire, le cinéma a eu son temps aussi où il a inspiré la crainte, et le théâtre, il y a longtemps, l'a eu aussi. Donc voilà, c'est tout à coup en fait des médias qui, des nouveaux moyens qui arrivent et qui provoquent une certaine peur, une certaine crainte, et qui aujourd'hui, par rapport aux jeux vidéo, on voit bien que c'est en train de rentrer dans les pratiques courantes, que énormément de gens y jouent, que ça ne pousse pas au crime. Enfin, mais en tout cas, elle joue avec cet imaginaire collectif qui rend le jeu vidéo un peu craint, qui fait peur, qu'on ne connaît pas. C'est vrai que les jeux vidéo les plus connus sont des jeux violents, mais c'est d'une part, est-ce que jouer à un jeu violent rend violent? C'est une question que je trouve que c'est difficile de trancher. Et d'autre part, ben oui, c'est laissé un peu à l'initiative privée, le jeu vidéo. Il n'y a pas vraiment de financement, il n'y a pas vraiment de subvention, il n'y a pas vraiment de... Donc c'est un peu, les entreprises vont un peu là où ça marche aussi, enfin, je veux dire, c'est pour
Mais
ça.
Mais ça dépend aussi peut-être de la psychologie de l'adolescent même.
Oui, tout à fait. Après, il y a des résultats étonnants chez les jeunes qui jouent aux jeux vidéo, par exemple au niveau de la concentration, de la disponibilité, qui sont plutôt positifs, par exemple.
Les jeux, en fait, je ne dirais pas que c'est des jeux, mais les soldats américains sont replacés dans des réalités virtuelles.
Oui, dans des simulations.
Combat aussi, donc.
Ouais. Mais c'est là où, en fait, la pièce dépasse un peu la question du jeu vidéo, et où finalement on le prend pour décor, on le prend pour... on le prend pour imaginaire, mais en fait on se pose pas vraiment cette question. On n'y répond pas. Moi, je suis pas spécialement un joueur. Enfin, j'ai joué aux jeux vidéo, mais c'est pas pour aller pour ou contre les jeux vidéo. C'est pas cette question-là m'intéresse pas beaucoup. Et dans la pièce, c'est pas vraiment celle-là qui est posée. C'est plutôt la question de savoir comment on communique et comment on s'enferme dans des réalités. L'addiction, par exemple, on pourrait dire que les jeunes sont dans la pièce. En tout cas, certains jeunes sont accros aux jeux vidéo, tout comme certains parents sont accros à l'alcool, aux médicaments, aux somnifères, au travail. Non, ben oui. Et donc voilà, donc la question de l'addiction ici, elle est replacée dans un ensemble qui fait qu'elle disparaît au milieu d'une multitude d'addictions. Donc finalement, c'est vrai qu'on parle du jeu vidéo, c'est vrai que c'est une pièce qui prend pour cadre le jeu vidéo, mais ça n'est pas ça n'est pas la question centrale, en fait.
Est-ce que ça vous a posé des problèmes de mise en scène?
Alors, des problèmes. En tout cas, c'est clair qu'il a fallu prendre des partis pris pour qu'on puisse jouer sur plusieurs réalités. L'auteur en propose, elle en propose, c'est-à-dire qu'elle laisse la chose assez libre, mais on voit bien que dans l'écriture, elle suggère des choses. Et puis, moi, là-dessus, j'ai construit un dispositif scénique qui permet de travailler sur différentes perceptions, enfin, différentes sensations de l'endroit où se passe la scène. Mais évidemment, le but du jeu, c'est de laisser une ambiguïté, puisque la pièce est construite pour que ce soit la dernière scène qui donne la clé au spectateur de refaire le schéma de la pièce et de voir, lui, en fait, à quelle réalité il accorde du crédit et à quelle il n'en accorde pas. Donc, c'est livré au spectateur.
Est-ce que c'est aussi une expérience pour le spectateur? On joue un peu sur le
sensoriel. Oui, enfin, alors d'un point de vue scénique, oui, il y a un dispositif qui est particulier que je ne vais pas ici décrire parce que ce serait dommage de ne pas le découvrir. Et d'un point de vue de la relation entre le spectacle et le public, il y a effectivement quelque chose qui est constamment en lien pour donner des pistes, pour donner de la matière à imaginer, et puis pour à la fin donner une clé qui permet de refaire la pièce, quoi.
Est-ce que cette pièce est déjà... Je pense qu'elle n'a pas été beaucoup montée jusqu'à...
Alors, ni l'auteur ni la pièce n'avaient été montées en français. Donc c'est une première, mais elle a été jouée déjà plusieurs fois aux États-Unis et en Angleterre.
Alors, cette pièce, c'est quelque chose qui entre bien dans le cadre de ton travail plus général, parce que je pense que tu participes à un collectif.
Oui, j'ai une compagnie qui s'appelle la Skiff Company.
Et qui s'intéresse aussi à des thèmes bien précis.
C'est-à-dire, de prendre le microcosme familial comme révélateur ou comme prisme de la société, c'est quelque chose qu'on a déjà fait deux fois, en tout cas avec Les Exclus de Jelinek et avec Cible Mouvante de Mayenbourg, où à chaque fois sont étudiées la relation parent-enfant. Ici, c'est la troisième qui effectivement s'appuie sur cette relation-là. Donc oui, c'est un travail sur la durée, et à chaque fois c'est des points de vue différents, des éclairages différents. Il s'agit pas de faire de psychologie sur la relation parent-enfant ou adolescent-enfant, mais plutôt de la prendre comme un révélateur, ou en tout cas ici par exemple comme un sur le rapport à la communication et sur le rapport à la réalité, sur des questions précises, quoi.
Au sein de ce collectif, ce sont toujours des pièces d'auteurs que vous
oui,
choisissez
Oui, c'est... Vous... Non, moi, je travaille toujours sur des textes déjà écrits. Les deux filles avec qui je fais ce collectif, donc Lise Wittamer et Elena Pérez, elles ont écrit un texte, un spectacle qu'elles ont fait, où elles ont écrit elles-mêmes le texte. Mais moi, à chaque fois que j'aime, moi, je travaille toujours avec des textes déjà écrits.
Et c'est un texte, c'est un collectif qui est né à partir d'un travail sur Sarah Kane.
C'est ça. En fait, quand on était à l'INSAS, on faisait partie de la même promo à l'INSAS, et j'avais proposé à ces trois acteurs de travailler sur. Enfin, ils étaient quatre, mais il y en a trois avec qui on a fait ce collectif de travailler sur Manque. Et donc après les cours, on allait travailler sur Manque. On l'a présenté pendant qu'on était à l'école. Et puis de là est née l'envie de continuer, de prolonger les expériences. Alors c'est un collectif assez libre, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout le temps tous dans les spectacles, ça tourne en fonction des projets, mais on essaye d'avoir cette exigence de bien se connaître et donc de se pousser un peu chacun à garder notre curiosité et notre envie de chercher des choses.
Autour du spectacle qui va se jouer aux poches maintenant, donc pour en revenir à Quartier 3, Destruction Totale, il y a aussi des conférences qui sont organisées, en tout cas des rencontres.
Oui.
Et il y a aussi le 25 février, donc le spectacle va se jouer du 14 février au 11 mars.
Oui.
Et le 25, il y a un tournoi de League of Legends, vous. Alors, qu'est-ce que c'est
C'est le théâtre de poche qui a organisé ça. en fait, ils avaient.
C'est intriguant.
c'est des joueurs qui viennent jouer tous ensemble, en fait, et qui jouent à un jeu et qui viennent en fait jouer tous ensemble. Enfin, ça, le principe en soi est assez simple, mais c'est juste que ce que voulait faire le poche, c'était essayer de travailler sur des à côté qui permettent de faire avancer des questions. En les élargissant de la pièce, par exemple le jeu vidéo, j'avais pris contact avec une ASBL qui s'appelle Média Animation et qui fait de la formation pour adultes. Et notamment un pan de leur travail, c'est d'aller voir des professeurs, d'aller voir dans des écoles pour essayer d'expliquer justement que le jeu vidéo n'est pas quelque chose d'absolument mauvais, que pour essayer de remettre un peu les choses à leur place. Et donc j'avais suivi avec eux deux ateliers qu'ils faisaient et j'ai voulu les intégrer dans le processus, non pas justement pour appuyer sur l'aspect jeu vidéo, mais parce que c'est des à côté qui permettent d'élargir et de prendre des questions qui sont posées et de les élargir à autre chose, en tout cas de les ramener à du concret et de faire connaître aussi le travail d'autres gens. Enfin voilà, c'était un peu ça l'idée. Et donc ils ont voulu aussi organiser ce tournoi pour animer le poche d'une manière qu'il n'en a pas l'habitude et de créer des à côté dynamiques.
Au niveau de la langue, du texte, de la manière dont c'est écrit, tu peux nous en dire un peu plus et de la dramaturgie aussi, parce que c'est quand même un texte anglo-saxon.
C'est, ouais. Je suppose que ça, c'est une écriture assez, disons, c'est une écriture assez efficace au sens où l'écriture est assez directe, très parlée et voilà, enfin, et après, alors, au niveau de l'écriture en elle-même, c'est évidemment, il y a toute une part de non-dit, en tout cas de non-verbal dans les scènes. On sent bien que nous, on a dû faire un gros travail là-dessus. Pas du tout pour psychologiser la relation entre eux, mais parce que on sent bien que c'est une écriture qui nécessite quand même un certain décalage, et c'est ce décalage qu'on va trouver dans le non-verbal et dans des intentions qui ne sont pas forcément écrites et qui soutiennent cette écriture qui parfois peut paraître anecdotique, mais au fond c'est bien parce qu'il y a quelque chose d'autre qui se joue et qu'on se sert de l'anecdotique pour gagner du temps, meubler, essayer de savoir sans le demander. Enfin voilà, c'est une utilisation d'un langage un peu là pour le coup pas direct, mais qui nous a demandé de définir assez précisément intention et non verbal.
Mais ces joueurs, ils sont quand même dans un univers personnel, chacun est dans un univers propre, donc ce sont tous des univers parallèles qui vont interférer les uns avec les autres, mais au-delà de ça, il y a aussi le jeu qui se déroule, je suppose, parce que
c'est ça.
Faut atteindre un objectif, et donc le jeu pousse à éliminer des adversaires. Donc je pense que comme je n'ai pas vu le spectacle, je peux m'imaginer qu'il y a quand même.
En fait, c'est-à-dire que la porosité, elle est construite sur le fait que la pièce avance en parallèle entre le jeu et la et la, ce qui semble être la réalité. Enfin, c'est ça toute la question. Est-ce que ce qu'on voit finalement, c'est dans le jeu ou c'est dans la réalité? Mais donc, nous est donné entre chaque scène des solutions de jeu qui nous permettent d'avancer dans le jeu. Et dans les scènes, on fait référence à ce jeu qui font que on sent bien que ce sont deux choses qui avancent en parallèle. Et les moments de rencontre entre ce qui apparaît être la réalité et ce qui apparaît être le jeu sont donnés pour qu'on se pose la question s'il s'agit d'une coïncidence ou si finalement, effectivement, le jeu déborderait et viendrait envahir la réalité. Effectivement, le but du jeu, c'est assez simple, et c'est pour ça que je trouve que elle détourne ici un peu la question du jeu vidéo, parce qu'il n'est pas vraiment question d'en parler. C'est que le jeu est très simple, il suffit de se balader dans un quartier qui ressemble parfaitement à celui dans lequel il vit vraiment. Enfin, c'est le même, puisque c'est les données GPS qui sont utilisées, et il faut éliminer des zombies. Voilà, donc la trame est assez simple du jeu, et il s'avère que on comprend petit à petit que les derniers zombies à éliminer sont des zombies qui ressemblent furieusement aux parents de chacun des joueurs. Voilà, mais comme ça,
c'est monté comme un thriller.
C'est monté comme un thriller. Mais ce qui est intéressant, surtout, je trouve, c'est que ça, on évacue la complexité du jeu, le jeu est assez simple et on comprend bien où est-ce qu'il faut aller. Et tout ce qu'on va voir, c'est comment les choses s'enchevêtrent les unes sur les autres pour pouvoir remettre ce puzzle en place et savoir ce qui semble appartenir à la réalité et ce qui semble appartenir à la fiction, à l'imaginaire. Et savoir si la question qui se pose un peu à la fin, savoir si dézinguer un zombie qui ressemble à ses parents dans l'imaginaire, est-ce que d'un point de vue moral c'est condamnable ou justement pour le développement c'est intéressant. Enfin voilà, ça pose un peu cette question là aussi, puisque le dernier adolescent qu'on suit, on va le suivre dans une sorte d'initiation dont je livrerai pas tous les détails, mais voilà, qui renvoie ces questions au spectateur, quoi.
Ça a l'air bien passionnant. Il y a combien d'acteurs en scène ?
Il y a 4 acteurs qui jouent 16 personnages. Donc c'est aussi ici un endroit qui prête à confusion, puisque la pièce est écrite pour que justement les acteurs changent de rôle et donnent une alors qu'on leur définit bien des personnages dans le dispositif scénique, on voit quand même que tous ces personnages sont typés un peu de la même manière, et donc ça ajoute de la confusion à savoir dans quelle réalité ils sont.
Donc c'est un peu la trame de Quartier 3, Destruction Totale, un spectacle à découvrir.
À partir du 14 février.
Un thriller et
à répercussion
psychologique.
Pour la Saint-Valentin.
Voilà. Si on en a marre d'aller au resto pour la Saint-Valentin.
C'est du 14 février au 11 mars aux Poches à 20h30. Et je remercie Olivier Boudon d'être venu nous en parler.